Le dernier amant. Madame Lecoutelier de Bourges à Madame Espérant de Paris. Ta lettre, ma chère Mathilde, me demande avec une inquiétude affectueuse les nouvelles de ma santé. Mon silence prolongé te paraît l'indice d'un grand abattement, et comme tu sais, toi, ma vieille amie, quel coup cruel m'a frappé voilà 5 mois, tu insistes, tendrement indiscrète, pour que je te fasse la confidente de mon chagrin. Eh bien oui, chère, j'ai pleuré, j'ai souffert, j'ai pensé mourir quand Pierre Delaveau, l'homme que j'ai le plus aimé de ma vie, m'a si brutalement délaissé. Et puis, quelque chose d'inattendu m'a redonné l'espoir, m'a rendu la force d'exister. Et voilà que maintenant, je suis consolée, calmée, presque heureuse. Tout ce que je te dis là est pour toi plein de mystères. Écoute-moi donc, tu vas me comprendre. Seulement, permets-moi de reprendre d'un peu haut les événements dont notre séparation t'a empêché d'être témoin. Tu te rappelles, je pense, les circonstances de mon mariage avec Alfred Lecoutelier il y a aujourd'hui 19 ans, presque jour pour jour. Tu te rappelles nos dernières vacances de jeune fille passées dans la propriété que mes parents avaient assoupie. Ah, les gaies vacances, avec la joie d'être enfin émancipée, la maison pleine de monde et la vie devant nous. En avons-nous fait de ces projets aventureux tout en nous promenant par les allées de l'immense parc? Tu voulais épouser un consul pour aller en Océanie. Aujourd'hui, quand j'y songe, ce goût de l'Océanie m'étonne. En ce temps-là, il me paraissait tout naturel et je ne te demandais même pas d'explication. Le cher temps de folie! Moi, j'avais décidé dans ma sagesse que je ne me marierais jamais qu'avec un officier et de cavalerie encore. Dieu sait si je songeais, à ce moment-là, à ce petit Lecoutelier, à peine plus âgé que moi, à peine émoulu de l'école des ponts et chaussées, l'air si timide, le geste si gauche. Quand papa me déclara, un soir, que c'était lui qui allait être mon mari, je me mis à rire, puis à pleurer. Mon mari, ce gamin? Moi qui ne regardais les hommes qu'à partir de 35 ans s'ils étaient civils et du grade de capitaine s'ils étaient militaires. N'importe, je me résignais, comme toujours nous nous résignons au mariage, pour le mariage, pour la corbeille, la cérémonie, le voyage, les visites, les cartes avec monsieur et madame X. Pauvre petite cruche! Mon mari, avec un air extraordinairement jeune, était gentil garçon. Il avait quelques rentes à lui de sa mère. De plus, c'était un sujet d'avenir brillant, sorti 3e de son cours, déjà bien placé au chemin de fer d'Orléans. Enfin, il m'adorait. Mais que veux-tu, après notre mariage, comme avant, il m'a été impossible de le prendre au sérieux. Plus impossible après qu'avant. Le pauvre garçon avait rempli ses fonctions d'initiateur avec une maladresse si ingénue. Je me suis laissé dire depuis qu'ils sont souvent comme ça les premiers élèves des grandes écoles. Tant pis pour eux. Ils ont ainsi deux raisons pour être trompés par leur femme. L'autre raison est que, dans la vie, ils rencontrent et fréquentent forcément beaucoup d'officiers qui ont été leurs camarades d'école et qui les tutoient tout de suite. À Bourges, où Alfred fut nommé inspecteur de l'attraction 2 mois après ce mariage, l'arsenal et l'école de pyrotechnie m'ont perdu. Tous les 2 jours, Alfred amenait à la maison quelques grands garçons à moustache, à dolman reluisant et à sabre sonnant, en me disant « Ma chère Albertine, je te présente un tel, mon camarade de promotion. Ou mon ancien, ou mon conscrit, cela variait. » Un de nos plus brillants officiers d'artillerie. Et il se tutoyait à qui mieux mieux. Or, quand on tutoie si vite le mari, on est naturellement enclin à tutoyer bientôt la femme. Ce fut le temps de ma jeunesse vraiment folle, de 20 à 28 ans. Tout ce temps-là, je ne puis pas dire que j'ai aimé. Je me suis laissé prendre par qui me plaisait, sans réflexion, sans calcul, indifférente à la profondeur des sentiments que j'inspirais, comme à leur durée probable. Ai-je besoin d'ajouter qu'Alfred ne vit rien, continua à m'amener ses anciens, ses camarades et ses conscrits, avec la même sérénité? Ah, pendant ces 8 années, je t'assure, l'arsenal et l'école de pyrotechnie ont été très appréciés par les armes spéciales. J'avais donc tout près de 30 ans et j'avoue que je descendais une assez dangereuse pente quand j'eus le bonheur de rencontrer Pierre de Lavaux qui me fixa et me sauva. Pierre avait 40 ans, une beauté mâle d'Espagnol. Médecin de province, il était célèbre dans les 4 ou 5 départements dont Bourges est la capitale. Il vint à la maison, mandé près de moi pour des crises nerveuses que je commençais à subir trop fréquentes déjà, et tout de suite, je l'aimais. J'insiste sur « tout de suite » car la brusquerie de ce coup de passion fut inouïe. Et lui aussi m'aima. Pour la première fois, je me sentis l'objet d'un sentiment ardent, profond, exclusif. Pour la première fois, je fus maîtrisé par une volonté plus haute que la mienne, je fus dominé délicieusement. Alfred Dubois me présentait désormais des échantillons de toutes les promotions de l'école polytechnique, je n'y prêtais plus d'attention. Lui-même, ce pauvre Alfred, dont j'avais jusqu'alors toléré les tendresses, je dus l'éloigner de mon lit. Pierre l'exigea et j'obéis bien volontiers. Pour justifier cette éviction, je simulai une affection intime qui obligeait au plus grand ménagement. Pierre la décora d'un nom scientifique qu'il révéla à mon mari. Et les années se succédèrent, les meilleures de ma vie, de pures années d'amour, au cours desquelles ni la passion de Pierre ni la mienne n'eurent de défaillance. Ce fut le rachat de mes années d'avant, celle du désordre sentimental. Tout ce qui n'était pas mon amant m'importait peu. Je lui fus d'une fidélité qui pourrait servir d'exemple historique. Alfred connut-il son déshonneur? J'inclinerais à le penser si le caractère élevé de mon mari ne démentait pas l'hypothèse d'une complaisance. Sans doute, il a deviné notre amour. Mais la maladie qu'il m'attribuait lui semblait une sauvegarde, et d'ailleurs, son estime, son respect pour moi, il me l'a dit bien souvent, l'empêcher de me croire capable d'une chute. Quoi qu'il en soit, s'il a vu, s'il a souffert, il s'est résigné et s'est tu. Le rêve finit aussi brusquement qu'il avait commencé. Un matin, oh, ce froid matin d'avril, comme je me le rappelle, une lettre de Paul m'annonça qu'il se mariait. Il épousait, à Paris, une jeune veuve de 27 ans. Mais lui en avait 50, diras-tu. Il les avait bien sonnés, et pourtant, je te jure que c'était toujours le même beau cavalier, à tête de conquistador, qui avait subjugué mon cœur 10 ans plus tôt. L'âge n'a pas de prise sur ces masques de parchemin. Je passai tout un jour et toute une nuit dans un état d'hébétude qu'aucune pensée ne traversa. Puis la fièvre me prit, et durant des semaines, je fus réellement entre la vie et la mort. Quand les sens me revinrent, j'aperçus à mon chevet mon mari qui m'avait veillé, me dit-on, avec une sollicitude de mère. Cette sollicitude ne se démentit pas un instant pendant ma convalescence. Et quand mon corps et ma tête furent hors de péril, ce fut encore lui qui soigna ma pauvre âme meurtrie, qui la pansa par de douces paroles, par mille délicates tendresses. Moi, je pleurais sans cesse, sans vouloir même espérer qu'un jour je ne pleurerais plus. Je réfugiais mon chagrin et ma faiblesse dans cette affection indulgente, toujours ouverte pour moi. Véritablement, sans Alfred, je n'aurais pas eu le courage de vivre. Le jour où je crus mes forces tout à fait revenues, j'osai tenter une épreuve qui, jusque-là, m'avait épouvantée. Appuyée sur le bras de mon mari, je marchai jusqu'à la grande psyché Louis XVI qui est au bout de ma chambre et je m'y regardai. Ce n'était plus moi ce que j'y vis, c'était le spectre de la jeune femme que j'avais connue, vivante et vibrante, amoureuse et aimée. Je poussai un cri de désespoir, je tombai dans les bras d'Alfred. Il m'y serra passionnément et, posant sa bouche sur mon oreille, il y glissa ses paroles qui descendirent en moi comme un baume. « Tu es toujours belle, toujours jeune, toujours désirable. Je t'aime. » Ce fut notre vrai jour de noces. « Que te dirais-je de plus, Mathilde? La reconnaissance, le chagrin, l'émotion des nerfs m'avaient rendue à mon mari. Il sut me garder et me retenir. après 20 ans de tête-à-tête indifférent, je m'aperçus tout d'un coup qu'il était jeune, dévoué, intelligent, amoureux et charmant. Quant à lui, il ne mentait pas quand il me disait « Tu es toujours belle ». N'ayant jamais adoré que moi, il me voit aujourd'hui telle que j'étais à 20 ans, au temps de notre mariage. Ainsi, pour l'un et pour l'autre, l'amour et la jeunesse sont revenus en éclosion tardive, comme ces lilas qu'on voit parfois, à l'automne, repousser des feuilles et des fleurs. Et je ferme ma porte sur cette joie d'arrière-saison. En grâce, j'ai demandé à mon mari de ne plus amener entre nous les débris de sa promotion. De même, sur mon désir, nous avons changé de docteur. C'est un bon vieux médecin tout blanc, qui me soigne. Que si, parfois, des échos mal assoupis tentent de se réveiller dans mon cœur, ou si, devant mes yeux, se jouent des silhouettes de militaires, ou certains profils de nobles conquérants, je sais un moyen infaillible pour me ramener à la réalité et à la raison. Je cours à ma psyché, je m'y regarde attentivement. Je compte mes premières rides, mes premiers cheveux blancs, et j'entends une voix mystérieuse qui me dit très bas « Prends garde, cette fois c'est la fin de la fin. Après ce panier-ci, vendanges seront faites. Garde bien ton mari, ton dernier amant. »